vous suit.
Voici les titres du journal.
Des parents valaisans pourraient être amendés. La cause, ils n'ont pas mis leurs enfants à l'école en janvier à cause du masque obligatoire. Ils demandent désormais l'abandon des procédures. 9 familles de la Riviera ont décidé de changer leur quotidien via le projet Tutothèque de la bibliothèque de Vevey. Elles ont ainsi appris à fabriquer leur propre shampoing ou encore ne plus utiliser du plastique. La section valaisanne de l'association Lire et Écrire lance un nouveau cours. Il s'appelle Lire et Écrire avec l'informatique et permettra de favoriser l'autonomie digitale aux personnes avec un accès limité aux nouvelles technologies. Et puis en hockey sur glace, le LHC a réalisé une belle remontada hier soir face à Ambri Piotta en National League. Et puis en ski alpin, les amateurs de glisse ont rendez-vous ce soir au Diableret pour la première épreuve de l'Ericas Open.
Du soleil pour cette journée de mercredi. Demain matin, encore un peu de soleil avant le retour des nuages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journaud. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Ne pas envoyer son enfant à l'école, c'est se soumettre à une amende. Et en janvier dernier, des parents valaisans ont refusé que leur rejeton porte le masque à l'école. Certains enfants ont donc ainsi manqué près de 3 semaines de cours. Aujourd'hui, ces familles, au nombre d'une trentaine environ, sont poursuivies, comme la loi le prévoit, ce qui n'est pas au goût du collectif des parents valaisans. L'organisation a convoqué la presse hier pour l'informer du dépôt le 7 mars prochain d'un postulat urgent au Grand Conseil afin que les procédures soient abandonnées. Une situation qui surprend le chef du service de l'enseignement, Jean-Philippe Lomfa.
Les décisions étaient des décisions sanitaires, faites par les autorités sanitaires au niveau d'une région, d'un pays. Et dans un contexte de crise, nous, on a toujours voulu le bien des enfants. Et c'est vrai qu'on a toujours cherché un équilibre. On sait que ces masques, c'était une gêne pour les enfants, mais ça n'a jamais été dangereux pour les enfants. S'il y avait des certificats médicaux en rentrée en matière, on a discuté avec eux, et c'est clair que ces collectifs parents nous ont envoyé des pétitions qui traitaient mes directeurs d'exécutants nazis, nous traitaient aussi de tueurs d'enfants. Je crois à un moment donné, on peut être sensible, ouvert au dialogue, on l'a montré durant toute cette crise. Là, on a laissé des possibilités. Ils ont défié l'institution, ils ont mis en cause la légitimité de l'institution. Moi, maintenant, les inspecteurs font leur travail, ils entendent encore une fois ses parents et les procédures sont en route.
Le collectif des parents valaisans a convoqué la presse avant même le dépôt du postulat au Grand Conseil. Frédéric Caron, député vert et membre du collectif, explique pourquoi.
Parce que les sessions, elles sont pas tous les jours, elles sont pas tous les mois. Il y a des grands espaces entre les sessions et puis il y a des choses qui se passent à un moment donné. Il faut qu'on puisse réagir. Quand ça se passe, on peut pas attendre 3 semaines, 1 mois pour réagir. Souvent, les choses, elles sont derrière. Et puis, on va quand même, je pense, par notre action, mettre un petit peu de pression aussi. Donc ça c'est aussi important, on est dans une démocratie, il faut faire entendre toutes les voix et s'il n'y a pas des relais, et nous sommes des politiciens, nous sommes élus pour ça, nous sommes des relais de la population et puis ben, ces gens-là ils ont besoin de nous et on fait notre job.
Le Grand Conseil valaisan décidera le 7 mars s'il accepte ou non le postulat urgent du collectif des parents valaisans. Un sujet signé Valérie Blum.
Le projet Tutothèque de la bibliothèque de Vevey arrive à bout touchant.
Les résultats seront présentés en début de semaine prochaine via 10 vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet de la bibliothèque. Concrètement, le projet avait pour but d'encadrer 9 familles de la Riviera dans des démarches à portée écologique. Un potager sur le balcon, réduire sa consommation de plastique ou s'habiller uniquement avec des vêtements équitables. Voici quelques exemples des défis relevés par les 9 foyers volontaires. La tutothèque a été chapeautée par la médiatrice culturelle de la bibliothèque de Vevey. L'occasion pour Mylène Badou de partager sa propre expérience.
C'est venu d'un constat personnel parce que c'est en faisant que je me suis dit mais c'est pas si simple, c'est pas si donné à toutes les bourses, c'est pas si donné à toutes les compétences. Il faut vraiment beaucoup lire sur le sujet ou participer à des ateliers. Et j'ai voulu vraiment simplifier l'accès à l'information aux familles qui souhaitaient se lancer. Et c'est aussi la mission de la bibliothèque de faciliter l'information.
Et par exemple, on fait comment une lessive écolo non polluante?
Mais en fait, c'est super simple. Avec du savon de Marseille, on peut tout faire. Le plus compliqué, c'est vraiment de changer ses habitudes et puis de désapprendre un petit peu ce que l'industrie nous a appris. Par exemple, l'industrie nous a appris l'odeur du propre, mais l'odeur du propre, ça ressemble pas du tout à ce que justement les lobbies nous ont appris.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Dans le cadre du label Culture Inclusive, toutes les vidéos seront disponibles en langage des signes pour les sourds et les malentendants.
25% de la population suisse n'a pas ou peu de connaissances numériques de base.
Pour y remédier, la section valaisanne de l'association Lire et Écrire lance un nouveau cours intitulé « Lire et écrire avec l'informatique ». Il est ouvert à toute personne parlant français, car aujourd'hui, dans un monde toujours plus technologique et digital, il est ainsi nécessaire d'avoir certaines bases. Valérie Marty-Zen-Ruffinen, directrice de l'association Lire et Écrire section Valais.
Le numérique s'impose dans nos quotidiens à tous les niveaux. Hein. Vous voulez acheter à manger, vous voulez acheter un vêtement, vous voulez acheter une maison, et bien vous passez par Internet. Et il y a quand même ce 25%, c'est un chiffre qui est énorme, qui n'a pas ou peu de compétences en numérique. Et c'est un facteur d'augmentation très marqué de la fracture sociale. Ça veut dire que les gens qui peinent déjà à lire et à écrire, ils ont cette difficulté encore par rapport au numérique, et ils sont encore plus laissé au bord du chemin. Et notre idée, c'est véritablement que les personnes en situation d'illettrisme d'aujourd'hui ne deviennent pas des personnes en situation d'illettrisme numérique demain.
À noter que le contenu précis du cours sera défini de façon individualisée avec les participants en fonction de leurs besoins et parcours. Il est possible de s'inscrire dès maintenant sur lire-et-écrire.ch, un sujet préparé par Thierry Nicolet. En 2021, 72 personnes sont décédées en Suisse parce qu'elles n'ont pas reçu l'organe qu'elles attendaient. Elles figuraient sur une liste d'attente qui compte 1434 personnes. Du côté positif, 587 transplantations ont pu avoir lieu l'an passé. En comparaison internationale, la Suisse n'est pas un bon élève en matière de dons d'organes. Les citoyens suisses voteront le 15 mai sur ce sujet. Ils sont appelés à ratifier une loi qui introduit le principe du consentement présumé. Cela signifie que les personnes qui n'auront pas annoncé de leur vivant qu'elles refusent le prélèvement de leur organe seront considérées comme des donneuses, avec des nuances, et ce projet est combattu par un référendum. Les explications à Berne de Serge Jubin.
Il y eut d'abord une initiative qui voulait radicalement changer le paradigme. Aujourd'hui, les organes ne sont prélevés sur les personnes décédées que si elles y ont consenti de leur vivant ou si les proches estiment que la personne décédée aurait accepté. Ce principe limite le nombre de transplantations possibles. L'initiative voulait passer au consentement présumé au sens strict. Si de votre vivant vous ne vous êtes pas opposé au don d'organes, on pourra en prélever à votre mort. Trop radical, ont estimé le Conseil fédéral et les chambres. Il faut effectivement passer au nouveau mode du consentement présumé, mais au sens large. Si une personne décédée ne s'est pas prononcée de son vivant sur cette question, elle ne sera donneuse que si les proches y consentent. Cela ressemble furieusement à la situation actuelle, le ministre de la Santé Alain Berset.
Ce que ça change, c'est qu'on a, dans le cas où il n'y a pas de situation claire, la possibilité de dire, dans ce genre de situation, on part en général de l'idée que la personne décédée y aurait consenti, sinon elle l'aurait fait savoir.
Un référendum a abouti pour les référendaires. Il n'est pas question que qui que ce soit puisse décider du sort du corps humain, sinon la personne elle-même. Le peuple tranchera le 15 mai. Le Parlement a voté à une forte majorité la modification de la loi. 141 contre 44 au national, 31 contre 12 aux États. L'opposition vient d'élus de l'UDC et du Centre.
Et malgré la pandémie, l'approvisionnement des hôpitaux suisses a été assuré pour tous les produits sanguins en 2021. L'âge moyen des donneurs de cellules souches du sang, nécessaires pour des maladies graves, a reculé. Une évolution saluée par Transfusion CRS Suisse dans un communiqué. En effet, la part des nouvelles personnes enregistrées parmi les moins de 30 ans a grimpé à 62,5% contre 49,4% en 2020.
Ça va jazzer dans les rues de Porrentruy cet automne.
Alors si vous n'avez pas compris le patois d'Axel, comprenez, ça va parler dans les rues de Porrentruy cet automne. Et pour cause, mais c'était très bien Axel, bravo. Et pour cause, les 24 et 25 septembre prochains aura lieu la fête romande et internationale des patoisans. Pendant deux jours, quelques centaines de personnes venant de Romandie, mais aussi de France et d'Italie, vont converger vers le chef-lieu Ajoulot. Animation sur le thème des métiers d'antan, rencontres scientifiques, concours littéraires, messe en patois, cortège, les patois seront mis en valeur. Charles Julliard, président du comité d'organisation.
C'est pour montrer que cette langue que l'on dit morte, que l'on dit inutile, elle vit encore, elle vit au travers de différentes activités, elle vit dans les écoles jurassiennes, elle vit au travers d'un site internet, elle vit au travers d'auteurs qui écrivent des pièces, qui écrivent des poèmes, et qui aussi des acteurs, des chanteurs qui se produisent régulièrement ici, dans le Jura, mais aussi dans les autres cantons romands et dans les régions concernées par la Fédération romande internationale du patois.
C'est aussi pour ça que vous avez mis en place une rencontre scientifique, c'est lié à la foire aussi, enfin il y a une volonté de voir plus large que les personnes qui parlent patois dans le Jura et en Romandie.
Oui, c'est faire la fête avec la population, c'est faire la fête avec celles et ceux qui ne parlent pas patois. Moi personnellement je parle quasiment pas le patois, mais c'est pour montrer que c'est notre culture, ce sont nos origines, et c'est l'occasion de remettre en présence dans une ville comme celle de Porrentruy, ville médiévale, les traditions et la modernité.
Des propos recueillis par notre consoeur Nancy Chapuis de RFJ. Cette fête romande et internationale des patoisans est organisée tous les 4 ans par une région différente. Elle avait dû être repoussée l'année dernière à cause du Covid. L'Ukraine a mobilisé aujourd'hui ses réservistes et se prépare à instaurer l'état d'urgence. Le spectre d'une invasion russe se faisant de plus en plus pressant, alors que Vladimir Poutine insiste toujours plus sur ses exigences malgré les sanctions occidentales. Ces annonces sont donc une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre les deux pays. On passe au sport. Hockey sur glace, Joël Genazzi retrouve le chemin des filets. Le numéro 79 du Lausanne HC les a fait trembler hier soir à Malais, et plutôt deux fois qu'une. Son équipe était menée 2-0 par Ambry Piotta avant qu'il n'inscrive un doublé dans ce duel finalement remporté 3-2. Joël Genazzi n'avait plus marqué depuis le 2 novembre 2021, mais à l'entendre, ce n'est pas une statistique qui l'empêchait de trouver le sommeil. On l'écoute.
J'essaie de pas que prendre la confiance avec des buts. Il y a des points en général. J'ai le privilège d'avoir signé un contrat et j'ai plus besoin des points dans ma carrière, en fait. C'est toujours le même sujet avec les managers et tout, les agents et tout ça. C'est des points. Mais en fait, t'as pas besoin des points comme défenseur. Et puis donc je suis content que j'ai plus besoin de faire des points dans ma carrière. Je savais que ça faisait longtemps, mais j'avais une belle série en janvier au niveau de points. Ça m'a donné quand même un peu de confiance. Et puis, on avait gagné quelques matchs. Et puis, je me sentais bien aussi défensivement. Ça me suffit d'avoir de la confiance.
Joël Genazzi au micro de nos confrères de LFM. Reprise chargée donc pour le LHC qui rejoue déjà ce soir dans le cadre de la National League. Place à un derby sur la glace de Fribourg-Gotteron tout à l'heure à 19h45. Et puis deux échelons plus bas, le HCV Martigny s'est relancé en quart de finale des playoffs de MS League. Les Octoduriens, battus lors du premier duel samedi, se sont imposés hier soir à domicile. La formation valaisanne a gagné 4-3 face à Thun. Les deux équipes sont à 1 partout dans leur confrontation au meilleur des 5 matchs. Le troisième duel se tiendra en terre bernoise demain soir dès 20h.
En ski alpin, les amateurs de géants vont se retrouver dès ce soir à l'Erika S Open.
La manifestation vaudoise revient après une année spéciale Covid-19. Pour 2022, les organisateurs ont pu tabler sur un programme classique et sans mesures sanitaires. Ainsi, quelques 300 participants sont attendus au cœur des Alpes vaudoises pour prendre part à un slalom géant. Petits et grands vont donc pouvoir découvrir ou redécouvrir les sensations de course et de compétition. Et pour pimenter le tout, l'événement se déroulera en nocturne sur une piste éclairée. Alors pourquoi ce choix de nuit? Écoutez la réponse d'Erika S.
Au départ, c'est parti parce qu'on voulait mettre en avant cette piste éclairée. C'est unique dans le canton. Donc il faut montrer aux gens qu'on peut skier en nocturne. C'était ça au début le challenge. Et puis c'est devenu une course. Je vois les enfants, ils se réjouissent de venir et puis de pouvoir courir une fois en soirée et pas seulement la journée. Donc il y a un petit peu tout ça. Et puis après, effectivement, le matin, la piste est encore libre pour s'il y a des entraînements. Comme c'est quand même devenu une piste maintenant où ils se tiennent beaucoup des entraînements et aussi des courses. Et bien comme ça, la piste, elle n'est pas prise toute la journée.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. La première épreuve de l'Erika S Open, édition 2022, se tiendra donc dès ce soir au cœur des Alpes vaudoises. Pour les quelques 300 participants qui seront présents, c'est un géant nocturne qui sera au programme.
L'actu en continu, radiochablais.ch. La météo, avec la médecine esthétique sur mesure à la portée de tous, chez Estémédis, à la maison de santé de Colombey-Murat, estemedis.ch.
Quelques nuages possibles encore, notamment sur la Riviera, sinon le temps sera ensoleillé cet après-midi dans l'ensemble, avec un mercure qui indiquera au maximum 12 degrés en pleine, 6 à 1000 mètres et un tout petit degré à 2000. Pour demain, temps encore assez ensoleillé le matin, malgré des passages de nuages élevés et parfois denses. Et puis l'après-midi, de moins en moins de soleil, avec des passages nuageux en augmentation. Quelques précipitations nous sont annoncées dans la soirée et la nuit, avec une limite plus neige qui va s'abaisser de 1300 à 700 mètres environ. De 2 à 5 cm de neige fraîche sont attendus au-dessus de 1000 mètres d'ici vendredi matin. Demain, de 2 à 11 degrés en pleine, de 0 à 8 à 1000 mètres et de moins 3 à 2 à 2000.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ca.